Bienvenue dans l'Éclectique 13. Cette semaine, je fais un mea culpa sur mes anciennes émissions. Je vous parle de plusieurs articles super intéressants et des logiciels gratuits. Et tout ça dans la bonne humeur. Allez, bonne émission. Bienvenue à l'Éclectique Show numéro 13. Hey, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Ça faisait très longtemps, je me suis ennuyé de vous. Ben, le moment où j'avais le temps de m'ennuyer, je me suis ennuyé de vous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un nouvel enfant à la famille, un nouveau bébé qui a 4 semaines maintenant, 5 semaines. Même demain, il va avoir 6 semaines. Un père indigne qui ne connaît pas la date de naissance de son fils. Alors, voilà, c'était la raison pour laquelle il n'y avait pas eu d'éclectique et puis que les éclectiques vont s'espacer un petit peu dans les prochains moments. Puis, ben, cette pause m'a permis de réfléchir. Elle m'a permis de réfléchir sur l'avenir de l'éclectique. Je vais continuer l'éclectique. J'aime trop le podcast pour arrêter, malheureusement pour vous. Mais assurément, je veux m'améliorer. J'ai le goût du podcast toujours, mais je trouve que j'ai pas fait des émissions de qualité dans les premières émissions. Alors, je veux améliorer cet aspect-là. C'est pas le tout de vous relayer de l'information. Faut que j'apprenne de quoi? Faut que j'ai du plaisir à le faire. Puis pour pouvoir avoir du plaisir, faut que j'apprenne quelque chose. Alors, c'est pas juste de donner de l'information, mais c'est aussi de la lire, puis de l'apprendre, puis d'apprendre des choses pour moi en premier. Puis si j'apprends des choses, puis que je trouve ça plaisant, ben, nécessairement, ça va s'en ressentir pour vous. Alors, évidemment, pour aider au format, puis pour m'aider, moi, j'ai ouvert une nouvelle chaîne, un nouveau podcast qui s'appelle l'Éclectique Capsule. Je me rends compte que je devrais dire la Capsule Éclectique, mais c'est pas grave, on va la rechanger un jour. Ça me permet simplement d'enregistrer chacune de mes capsules quand j'ai le temps, quand je suis disposé, et puis de prendre le temps de les faire, parce que l'Éclectique, je les enregistre, toutes mes capsules les unes à la suite des autres. Mais, tu sais, c'est comme une machine à saucisses. Il faut faire ça vite, mais on fait pas forcément ça très bien. Alors, là, j'enregistre une capsule de temps en temps quand j'ai le temps, quand je suis disposé, et puis surtout quand il n'y a pas de bruit ambiant ou d'enfants qui pleurent. Et puis, chacune des capsules est sur l'éclectique capsule. Puis après ça, ben, je les regroupe tous ensemble. Et puis, ça vous fait un petit podcast d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, cette semaine, de quoi je vais vous parler? Ben, je vous ai trouvé des belles petites applications là, super intelligentes et gratuites pour PC, pour Mac, pour vous aider dans votre français, pour vous aider dans vos traductions. Je vous ai trouvé aussi, vu que c'est éclectique, c'est pas toujours dans le même ordre de sujet ou d'idées, pour retrouver tous vos manuels Lego, pour ceux qui aiment les Lego, je vous ai trouvé un site où il y a tout. En fait, sur le site de Lego, il y a tout, les manuels. Je vous ai trouvé deux articles super cool de Medium, en fait, qui font un peu le cœur du podcast cette semaine. Je vous tease un petit peu. Postmortem sur Google+, où c'est un article qui fait l'état des lieux de ce qui s'est passé, de l'histoire des 5 dernières années de Google+, en termes de projet, après ça, quand c'est sorti, et pourquoi, dans l'article, ils pensent que ça a planté. Et puis après ça, un autre article vraiment très, très, très cool sur Facebook Vidéo. Le titre, c'est « Facebook triche, ment et vole ». Vraiment une belle réflexion sur le Facebook qu'on connaît si bien, c'est-à-dire le Facebook qui ment et qui n'est pas forcément tout à fait legit. Allez, on commence tout de suite. Postmortem de Google+. C'est un billet de Seth Figurman, un article de Mashable, qui est sorti le 2 août. Vous le retrouverez assez facilement. J'ai trouvé l'article super intéressant parce que on se le cachera pas. Google+, c'est sur la voie de garage pour Google. Ben, cet article-là fait comme une espèce de post-mortem de ce qui s'est passé et pourquoi, dans l'article, il présume, là, ça n'a pas fonctionné. Alors, ça, l'article débute en 2010 où Larry Page revient un peu à la barre de Google+. C'est en 2011 qui est arrivé, mais 2010, il se rapprochait de plus en plus, je pense. Et Vic Gundotra, celui qui est le père de Google+, ben dans l'article, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il n'arrêtait pas de faire peur à Larry Page en lui disant « Facebook va nous tuer, Facebook va nous tuer, Facebook va nous tuer ». Et puis, dans l'article, ils disent que c'est le point de départ qui, en fait, qui est la première motivation à avoir voulu faire un média social comme Facebook. Puis on va voir que c'était justement le problème de faire comme Facebook. Alors, d'après l'article, Vic aurait complètement effrayé Larry Page en lui disant que faut passer à l'action parce que sinon Facebook va nous tuer, Facebook va nous tuer. Bon, à l'époque, Facebook n'était pas aussi gros que Google. Facebook, c'était 500 millions d'utilisateurs, puis c'était valorisé à 14 millions. Maintenant, je pense, en 2015, c'est 240 millions. Et avec 1,5 milliard d'utilisateurs. Vous voyez que ça n'a pas du tout freiné Facebook. C'est que là où ça a débuté, ben, c'est la frayeur que Vic faisait à Larry Page. Puis aussi, ben il commençait à se faire voler beaucoup d'employés chez Facebook. Alors ça commençait à être... puis des employés stratégiques. Ça commençait à monter aux oreilles de Larry Page et il fallait qu'il passe à l'action. La fin de Google Plus, ben, ça jette la lumière sur tout ça, sur le comment les entreprises, quand ils vont en dehors de leur nature, réussissent, ben en fait ne réussissent pas. On sait, hein, Google, c'est plus une compagnie où on développe des petites choses, puis naturellement ça grossit de manière, aujourd'hui dans l'article, ils appellent ça organique. Mais Google Plus, ça a été complètement différent. Ça a été un gros projet avec ben à la sauce Apple où là tous les employés, les meilleurs employés sont recrutés, ils ont pris un gros bâtiment pour pouvoir tout travailler. Ils avaient un calendrier de livraison. Tous les employés étaient dans le gros bâtiment comme ça. Ils étaient isolés. Il y avait une espèce de culte du secret par rapport à ça. Il y avait un plan. Malheureusement, par exemple, dans l'article que vous allez lire, ou en tout cas si vous le lisez, à l'époque, à Google+, il n'y avait pas vraiment un plan précis de ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire comme, hein, ils voulaient faire un réseau social à la sauce Facebook. Bon, au départ, il y avait les cercles, mais c'était la seule chose qui se distinguait vraiment. Puis dans l'article, j'aime ça, ils disent, pensez-vous vraiment que quand vous êtes dans une discothèque avec des amis, et que tous vos amis sont dans la discothèque, vous allez... aller dans la discothèque d'à côté qui vient de se créer, qui est juste techniquement un petit peu plus belle et un petit peu plus propre. Non, vous allez rester dans la vieille que vous êtes là, puis vous allez vous amuser avec vos amis. C'est ça l'essentiel. Ben, ça a été ça un peu le Google Plus. Fait qu'il y avait pas vraiment un plan clair qui se distinguait de Facebook. Il y avait un petit calendrier fictif. C'est pas le genre de Google de faire. Il y avait le culte du secret, comme je disais. Il y avait aussi la vitesse d'exécution. Apparemment, Vic Gundotra voulait vraiment faire vite. Il poussait à livrer vite, plusieurs itérations. Puis, c'est pas vraiment non plus encore la façon de faire de Google, semblerait dans l'article. C'est pas le mode de développement natif de Google. C'est ce qu'ils disent. Google, c'est des petits projets qui émergent de nulle part, qui grossissent. Exemple. Google Maps, ça a été un petit projet dans un coin, ça a grossi. Après ça, ils ont cartographié la planète, mais j'avais pas d'attente par rapport à ça au départ. Ça grossit naturellement. C'est pas faut absolument que ça grossisse. En plus, ben, pendant le projet Google Plus, il y a eu beaucoup de friction parce que Gundotra voulait vraiment imposer Google Plus partout. Fallait que tu aies un profil Google Plus pour aller partout. Alors, fallait que tu aies un profil Google Plus pour ton calendrier, tout ça. Ce qui a fait le plus mal, je pense, ça a été YouTube. Où là, ils ont imposé à Google Plus aux utilisateurs de YouTube. Ben, Picasa aussi, c'est. On a imposé, on a détruit Picasa à l'époque. Picasa, c'était un produit pour les photos, pour entrer à travers la gorge ben, les photos de Google Plus. C'était vraiment tous ces aspects-là qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas porté fruit. Alors, c'est intéressant de voir que quand une entreprise a peur, qu'elle sort de sa zone de confort, oui, mais qu'elle sort aussi de ses habitudes de développement qui ont fait son succès, quand elle essaye un autre mode, ben, en tout cas, dans cet article-là, ben, on voit que Google Plus, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ce qui est drôle, c'est que dans Google Plus, il a émergé des bonnes idées. Mais développé à la sauce Google, c'est-à-dire avec pas d'attente. Personne s'y attendait, il n'y avait pas de calendrier. Hangout, qui est un super beau produit de Google Plus qui a émergé grâce à Google Plus. Google Photo, que là, ils ont sorti de Google Plus. Alors, la nature est revenue vite chez Google, c'est qu'ils ont voulu nécessairement développer. Ils n'ont pas voulu nécessairement, c'est que la nature est revenue, ils ont développé à leur sauce habituelle, c'est-à-dire un petit projet qui grossit de manière organique. Alors, je vous conseille vraiment cet article-là qui était super intéressant et qui démontre quelque chose qu'on parle peu, c'est des mésaventures qu'il peut y avoir dans une grosse entreprise. Ils sont pas à leur première mésaventure, c'est pas leur cœur de métier le social Google, en fait. Et puis, c'est énième fois qu'ils vont nous le prouver. Là, présentement, au moment où on se parle, en août 2015, Google Photo est sorti de Google+. Les comptes Google+, ne seront plus obligatoires sur YouTube. Et puis, comme ils disent dans l'article, attendez-vous qu'un jour, Google+, on vous annonce que le stream ne fonctionne plus, le fil de nouvelles ne fonctionne plus, que ça va être autre chose. Ils démantèlent tout doucement, à la différence de ce qu'ils avaient fait avec leurs autres produits de médias sociaux. Ça fait pas de vague, ils sortent les produits un à un, mais c'est quand même réellement la fin de Google+. Une petite application encore que je vais vous recommander, ça s'appelle Dictionnaire Littré. Littré, ça vient de Émile Littré, ça a été un des premiers créateurs du dictionnaire français. Moi, ce que je vous propose, c'est le dictionnaire de Littré en version libre. Alors, si je regarde mes notes, d'abord, c'est gratuit. Ça a l'avantage 2. On peut consulter l'intégralité du dictionnaire et son supplément. Ça veut dire que tu peux l'avoir en mode offline. Vous n'avez pas besoin de l'avoir d'avoir Internet ouvert tout le temps. Vous pouvez naviguer dans les mots. Alors, si vous êtes dans une définition d'un mot en particulier, puis qu'il y a un autre mot dans la définition que vous ne comprenez pas, vous cliquez dessus, puis ça va vous amener directement à la définition. Évidemment, c'est un historique, parce que des fois, on va cliquer, puis là, ben, le problème, c'est que on ne sait plus au départ ce qu'on faisait. Alors, vous pouvez faire des suivants précédents. Vous pouvez exporter toutes vos définitions en format HTML, PDF, et ainsi de suite. Avec ça peut être cool à des fois. Vous pouvez changer les couleurs. Si pour certains, au niveau de l'accessibilité, vous voyez plus ou moins bien certaines couleurs, vous pouvez les changer directement les couleurs. Vous pouvez faire des recherches sans les caractères accentués, puis ça va vous trouver tout de suite le caractère. Des fois, on n'est pas sur son clavier ou on n'arrive pas à faire un accent en particulier, vous l'écrivez et puis c'est fait. L'avantage aussi, c'est offline, c'est gratuit, il est très simple, il est assez intuitif, l'interface est quand même assez bien faite pour un logiciel open source gratuit. Et puis, c'est offline. Il y en a une version pour Mac. Ça, c'est aussi cool. Mais le seul désavantage que j'y ai trouvé, qu'il n'y a pas de version pour Linux. Alors, je vous recommande fortement le dictionnaire Le Littré. Petite news rapide. J'ai découvert ça sur le site de Lego. Vous savez, des blocs pour les jouets d'enfants. Il y a un service qui vous permet de retrouver tous les manuels de fabrication de tous les Lego depuis tous les temps. Alors, je vais vous mettre ça dans les notes de l'émission. C'est super pratique si vous voulez refaire un vieux Lego et vous avez les pièces, mais vous n'avez plus le manuel, ou que vous jetez tous les manuels, mais que vous voulez les conserver de format électronique, vous les avez tous à partir de ce lien. Le dicton dit « une image vaut mille mots », mais ça vaut aussi mille, beaucoup d'informations, plus que 1000 mots. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque fois que vous prenez une photo, beaucoup d'informations sont stockées. Bon, vous avez l'information de la photo, mais vous avez aussi d'autres types d'informations. Quel type d'appareil ça a été, l'ouverture du focus, en tout cas, je connais pas le terme, mais vous comprenez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont recensées et aussi la latitude, longitude, la date, heure dans laquelle vous avez pris la photo. Et puis, ben, quand vous les partagez, ces photos-là, ben, ça partage ça aussi. Alors, ça attire les fouineurs, ça attire les annonceurs. Faut que vous fassiez attention à ça. Ça peut attirer certains voleurs. C'est fantastique de savoir que tel ou tel objet se retrouve à tel ou tel endroit en particulier. Faut faire attention. Alors, faut nettoyer ces photos. Faut pas arrêter de partager des photos, mais faut quand même les nettoyer. Je vous propose deux produits, en fait. Trois produits dans les liens de cette émission. Alors, on va y avoir, pour les Mac, pour nettoyer ça, ça va être EXIF Remover, EXIFREMOVER. Dans Google, vous allez trouver ça. Vous avez aussi dans Mac, dans le store, NoImgData, que vous pouvez utiliser. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça va retirer toutes les petites données là, qui sont cachées dans les photos, et puis vous allez pouvoir les partager comme il faut. Pour Windows, vous avez Digital Confidence, sans le E, et Confidence, c'est E à la fin. Et vous avez aussi geotagsecurity.com. Ces deux applications-là vont vous aider à effacer toute l'information que vous ne saviez pas que vous partagiez sur vos photos. J'ai découvert dernièrement une application pour Windows, encore une fois, ça s'appelle QTranslate. Q, comme la lettre, Translate, T-R-A-N-S-L-A-T-E. QTranslate, c'est un petit logiciel gratuit, c'est pour Windows. Ça vous permet de traduire des textes partout. C'est quoi la différence avec Google Translate, le traducteur de Google? Bien, la différence, c'est que le traducteur de Google, il faut toujours faire un copier, un coller, aller sur Internet, coller, avoir la traduction, ou si c'est sur un site web, alors si vous êtes dans Chrome, vous faites un clic de droit, vous faites traduire cette page. Mais ça implique que vous êtes toujours sur Internet. QTranslate, lui, est une application native sur l'ordinateur, et de la minute que vous sélectionnez un texte, vous cliquez sur le bouton droit, vous avez un petit bouton QTranslate, et vous appuyez, il va vous le traduire. Bon. Ça a l'avantage de rester dans le contexte d'utilisation que vous êtes. Si vous êtes en train de lire un PDF en italien, vous n'avez pas besoin de copier-coller le PDF, vous faites juste sélectionner le texte, vous faites QTranslate, puis ça va vous le traduire automatiquement. Vous restez dans votre contexte, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un autre logiciel pour aller traduire. Il est très léger. Il est multi-traduction. Ça, c'est cool parce qu'on peut traduire avec Google, on peut traduire avec Bing, Babylon, Prompt, il y en a plusieurs. Ça permet aussi, c'est facultatif, mais ça permet aussi de personnaliser l'aspect visuel. Des fois, ça peut être intéressant pour certains. Il y a aussi les dictionnaires. Alors, ça fait des petites recherches sur Internet, encore une fois. Là, c'est sur Wikipédia, sur les dictionnaires qui est un peu en ligne. Vous avez une définition si vous ne comprenez pas un mot. Toujours dans le contexte, c'est qu'on... Vous êtes dans un PowerPoint, vous êtes dans un logiciel, vous pouvez sélectionner le texte et le traduire automatiquement du clic droit, puis ça affiche directement la traduction. Et puis, ça conserve un historique des traductions. Fait que ça, c'est bien. Si vous faites plusieurs traductions ou vous faites plusieurs copies, vous le mettez dans QTranslate, ça va vous faire votre document. Des fois, ça peut être intéressant. Mais puis, c'est gratuit. Mais le désavantage de ça, c'est qu'il n'existe pas de mode offline parce que toutes ces traductions, ces définitions, tout ça, proviennent d'Internet. Alors, il faut absolument toujours avoir... Internet ouvert. Puis l'autre désavantage, c'est que c'est pas sur Mac ni Linux. Mais je vous la recommande chaudement. QTranslate pour Windows. Facebook triche, ment et vole. Sommes-nous surpris? C'est un article qui vient de Medium. Je découvre Medium. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en parlerai probablement dans une autre capsule. Alors, je ne sais pas si vous savez, en ce moment, pour acquérir de plus en plus de visiteurs et faire de plus en plus d'argent, Facebook met la pédale au plancher pour avoir, pour battre YouTube, en fait, pour avoir du vidéo, pour vous mettiez du vidéo sur leur plateforme. Et là, je vais expliquer deux termes. C'est des vidéos natifs Facebook et des vidéos en lien dans Facebook. Alors, un vidéo natif dans Facebook, c'est quoi? Vous prenez un vidéo et vous l'uploadez, vous le mettez en post directement dans Facebook. Et puis, un vidéo en lien, vous prenez un lien de YouTube, vous prenez un lien de Dailymotion, vous le copiez et vous le mettez dans un article. Et là, c'est un vidéo en lien. La différence, elle est super importante, c'est que il y en a un que le vidéo est hébergé sur le site où vous avez été le chercher. Vous pouvez le lire directement à partir de Facebook. Pour vous, c'est transparent, mais vous voyez absolument aucune différence. Mais la nuance est importante. C'est qu'il y en a un qui est hébergé sur les serveurs de Facebook et l'autre est hébergé sur la plateforme où vous avez été copié le lien. Et puis, ça fait une nuance très, très importante pour Facebook, puis vous allez voir. Alors, l'article vient de... Attendez, Mashable. Et puis, celui qui l'a écrit... Je vais revoir mes notes. Alors, Passepartout, non. L'article vient de Medium. Et... Ouais, voilà. Hank Green, qui est un YouTuber très connu, en tout cas, qui a l'air d'avoir une bonne communauté, puis en tout cas, il a l'air de savoir de quoi il parle. Il y a la chaîne YouTube SciShow, Crash Course et Vlog Brothers, si vous voulez aller voir ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et d'après les chiffres, vous allez voir qu'il sait de quoi il parle. Alors, le titre, c'est « Facebook triche, ment et vole ». Alors, il triche pourquoi? Selon l'article, les vidéos qui sont partagées, comme je vous dis, à partir d'un lien externe à Facebook, sont moins vues qu'un vidéo que vous avez mis nativement sur Facebook. Alors, un vidéo qui est hébergé sur les serveurs de Facebook est plus vu qu'un vidéo qui vous avez mis en lien. Alors, pour quelqu'un qui crée du contenu, vous me direz, il va créer son vidéo, puis il va l'uploader sur YouTube pour que les gens de YouTube le voient, puis qu'il y ait des statistiques, et il va l'uploader après sur Facebook. Oui, effectivement. Mais dans les deux cas, quand on a une chaîne, quand on a une communauté Facebook, on s'attend à ce que les statistiques soient meilleures. Alors donc, ils mettent de l'avant plus leurs vidéos. Ce que ça veut juste dire, c'est que Facebook met de l'avant les vidéos qui sont hébergées sur sa plateforme. Hein? C'est un peu... C'est pas anormal, mais dans la conclusion, comme dans l'article, donc Facebook met en avant la vidéo Facebook. Je suppose que c'est leur droit, à moins que quelqu'un ne décide qu'il faudrait installer une mesure antitrust. Effectivement. Et là, Facebook bloque à quelque part les vidéos des autres plateformes. Est-ce que, à la force de Facebook maintenant, 1,5 milliard d'utilisateurs, je pense en 2015, est-ce que quand on a un monopole comme ça, on peut faire ça? C'est questionnable. Mais ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, après tout. Alors, c'est pour ça qu'il dit « ils trichent ». Ils mentent. Alors, pourquoi ils mentent? Vous allez voir, c'est très drôle. Ils mentent sur le nombre de vues. Puis là, on va prendre du recul. Une vue, c'est quoi pour une vidéo de 5 minutes? Une vue, c'est... 1 minute? 5 minutes? 30 secondes? C'est quoi une vue, selon vous, pour une vidéo de 5 minutes? Est-ce que c'est 20% de la vidéo? 10%? On va y aller en pourcentage, ça va être plus simple. Une vue, c'est quoi? Fait que là, on se questionne par rapport à ça. Alors, d'après ces statistiques, vous allez voir dans l'article, je vais essayer de vous faire un blog post avec tous les liens que je fais. Dans l'article, il met les graphiques. Facebook, une vue pour eux autres, c'est 3 secondes. À partir de 3 secondes, ils comptabilisent ça comme une vue. Alors, ça soulève plusieurs questionnements pour ceux qui font du placement de produits, pour les gens qui font du marketing, qui font des choses comme ça. Est-ce qu'une vue Facebook vaut la même chose que YouTube? Questionnable. 3% de vues. Et puis, c'est pas pour rien que c'est... pas 3% de vues, mais 3 secondes. À partir de 3 secondes, c'est une vue pour Facebook. Et c'est pas pour rien parce que à partir de 3 secondes, 90% des gens regardent encore la vidéo. Mais comment ça se passe chez YouTube? Dans l'article, ils nous le disent. Chez YouTube, une vue, c'est à partir de 30 secondes, 10 fois plus. Et à partir de 30 secondes, 10 fois plus, chez YouTube, il reste 86%. Tandis que chez Facebook, à partir de 30 secondes, il reste 20%. Alors, s'ils veulent vendre aux annonceurs des placements, de la pub, de la vidéo, c'est sûr que le nombre de vues est important pour Facebook et plus ils disent que la vue est courte, plus ils vont faire de vues. Alors, plus les annonceurs vont dire « on va placer notre publicité sur Facebook plutôt que YouTube parce qu'ils en font un petit peu plus. » Alors, c'est pour ça que le rédacteur de ce blog post-là dit qu'il ment. Parce qu'une vue pour... Vous comprenez que la vue n'a pas la même valeur chez Facebook que chez YouTube. Il vole. Le troisième que j'ai dit, il vole. Alors, pourquoi il vole? Alors, je vais vous lire intégralement, hein, il vole. D'après un rapport récent de Ogilvy et Tubular Labs, sur 1000 vidéos Facebook les plus populaires du premier trimestre 2015, 725 ont été réuploadées, c'est-à-dire volées, sur Facebook. Alors, c'est des gens qui ont été cherchés sur Dailymotion, plus souvent YouTube qu'autre chose, là, ou ailleurs, des vidéos. Ils les ont réuploadées nativement sur Facebook. Et puis, ça fait partie des 725 vidéos les plus vues. Mais ça représente 17 milliards de vues. Bon, tantôt, je disais qu'une vue, c'est 3 secondes. Il faut relativiser aussi, mais c'est quand même 17 milliards de gens qui ont vu les vidéos. Alors, le problème de Facebook, c'est que vous connaissez le moteur de vous connaissez Facebook. Facebook est fermé. C'est un Internet dans un Internet. Alors, quand vous voulez rechercher, à la différence de YouTube, quand vous voulez rechercher une vidéo qui vous appartient, qui a été uploadée par quelqu'un d'autre chez Facebook, ça va être difficile de le trouver. Parce que si la personne a mis ses paramètres de sécurité tout bonnement que ça affiche pas les vidéos ou les posts, ben vous retrouverez jamais votre vidéo. Alors pour les créateurs de contenu, c'est un gros problème pour eux autres en ce moment de retrouver leurs vidéos qui sont volées. Mais c'est pas rien quand même, là. 72% des vidéos les plus populaires sur Facebook, c'est des vidéos qui ont été volées ailleurs. Et les créateurs n'ont rien. Mais, je vous rappelle aussi, dans l'article, il mentionne que YouTube aussi volait, à la belle époque de YouTube, quand il a commencé, en 2006-2007, avant qu'il se fasse racheter par Google. Ben, ils sont montés en popularité comment? Parce que les gens volaient des vidéos, notamment des téléséries, tout ça, et les uploadaient sur YouTube. Bon. YouTube, à l'époque, c'était une start-up. C'était pas gros. Facebook, c'est 260 milliards de valorisation. YouTube a été racheté, il me semble, à 1 milliard après ça, dans 2008-2009. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Et comme je disais, quand tu es un créateur de contenu, tu le sais pas que tu te l'es fait voler, parce que le principe de Facebook, c'est tellement fermé pour aller fouiller de l'extérieur quand tu n'as pas un compte ou quand tu n'es pas ami ou quand tu ne suis pas un groupe, que ça va être impossible pour toi, en tant que créateur, de trouver une vidéo qui t'a été volée. La conclusion de l'article, je vous la lis intégralement, est vraiment géniale. La conclusion. Facebook, vu sa taille, ne devrait pas avoir besoin de recourir à cette tactique pour construire sa présence en vidéo. C'est vrai. La différence entre YouTube 2006 et Facebook 2015, c'est que Facebook 2015 est gigantissime. Il peut mettre en place les mêmes mesures de protection que YouTube offre aux créateurs de contenu. Il le fait pas. Alors, Facebook, c'est pas nouveau, hein. Il a toujours volé. Il a toujours eu la réputation d'être un voleur. Là encore, dans ce cas-là, là ils volent et pourtant ils font beaucoup beaucoup d'argent et de bénéfices. Il n'y a aucun mérite à être aussi fier des chiffres mirobolants que Facebook a. Si les chiffres sont basés sur des mensonges, surtout si les chiffres sont basés sur le mensonge, la triche ou le vol. Alors voilà, c'était l'article « Facebook triche, ment et vole » qui était sur Medium, écrit par Hank Green. Alors, merci d'avoir écouté le podcast. Je vous retrouve d'ici 2, 3, 4 semaines, ça va dépendre. Et puis, si vous voulez partager, échanger avec moi, ben, vous pouvez me rejoindre sur @profduweb sur Twitter, info@profduweb.com sur les emails. Vous pouvez aussi discuter avec moi lorsque je fais des périscopes. Je suis un peu partout, vous cherchez Prof du Web et vous allez probablement trouver. Évidemment, si vous avez aimé l'émission, ben, c'est sûr, c'est toujours plaisant que vous commentiez, mais c'est aussi toujours plaisant que vous mettiez des étoiles un peu partout où vous êtes, pas forcément sur iTunes. Tous les logiciels maintenant offrent la possibilité de mettre des bons commentaires. Et puis, ben, on se retrouve dès que je peux et dès que j'ai le temps. Et si vous voulez avoir des éclectiques ou en tout cas des petites capsules rapidement, beaucoup plus que l'émission complète, abonnez-vous à l'éclectique capsule. Vous avez juste à écrire Prof du Web dans votre logiciel et puis vous allez me trouver l'éclectique capsule. Ben, la pochette, elle est rose. pour vous donner une petite indication. Alors, à la prochaine fois. Ciao, bye bye.